Vous écoutez On lit pour vous.
Les dons en action gagnent en popularité. Un texte de Julie Chaumont, paru le 13 novembre 2025 dans la presse. Au cours des quatre dernières années, Centraide du Grand Montréal a vu une augmentation du nombre de dons en action d'environ 26 %. Il faut dire que ce type de don comporte d'intéressants avantages, tant pour la personne qui le fait que pour l'organisme qui le reçoit. Entretien avec Raphaël Desrues, directeur principal, grand donateur et dons individuels chez Centraide du Grand Montréal. Qu'est-ce exactement que le don en action? Les dons en action, c'est un don de bienfaisance comme n'importe quel autre don. La seule différence est que ce qu'on va donner à l'organisme, ce sont des titres, des actions, des obligations ou des fonds communs de placement. Les trois peuvent être admissibles. Ce sont les actions en elles-mêmes qu'on donne, pas les revenus de la vente d'actions. Comment faire pour donner des actions? En général, l'organisme va transmettre un formulaire de don à la personne qui souhaite lui donner des actions. Une fois ce formulaire rempli, le donateur va le renvoyer à l'organisme et va par la suite contacter son courtier ou son conseiller financier pour donner l'ordre de transférer les actions à l'organisme. La transaction va ensuite se faire de courtier à courtier. Aujourd'hui et de plus en plus, il existe des comptes de courtage individuels, Wealthsimple, Disnat, etc. Donc, on a la possibilité de faire un don en action comme ça, mais dans l'immense majorité des cas, c'est de courtier à courtier. Un élément quand même important à souligner, à la réception des actions par l'organisme de bienfaisance, c'est la valeur de réception des actions qui va déterminer le montant du reçu fiscal émis au donateur. Donc là, il peut y avoir un décalage par rapport à la promesse qui a été faite par le donateur, car avec la volatilité des marchés, si les actions rentrent deux jours plus tard dans notre compte de courtage, il se peut qu'elles soient un peu plus hautes ou un peu plus basses que la valeur unitaire de l'action. De toute façon, le reçu est remis à la valeur à laquelle on a reçu les actions. Que font les organismes avec leurs actions? Chez Centraide, une fois qu'on a reçu les actions, on les revend. Il n'y a pas d'obligation légale de revendre les actions immédiatement, mais l'immense majorité des organismes de bienfaisance ont dans leur politique d'acceptation des dons des règles vis-à-vis de la gestion de la réception d'actions. À Centraide, on les revend immédiatement pour deux raisons. La première, c'est que les marchés sont volatiles, donc il y a un risque à garder des actions qui pourraient perdre de la valeur. Et la deuxième raison, c'est que l'argent, on en a besoin maintenant. On a besoin de financer nos projets maintenant, de soutenir les organismes maintenant. Y a-t-il des avantages au fait de faire un don en action plutôt qu'en argent? Oui. Il faut savoir que le don en action est une des formes de dons les plus avantageuses fiscalement. Comme toutes les autres formes de dons, à la réception des actions et en fonction de la valeur au jour de la réception des actions, on va remettre un reçu fiscal. Et ça, on le fait de la même façon que pour un don par chèque, par carte de crédit ou n'importe quelle autre forme de don. La différence avec le don en action, c'est que le donateur qui nous envoie des actions va être exonéré du gain en capital pour les actions. Si le donateur était amené à vendre les actions avant de nous envoyer l'argent, il sera imposé sur le gain en capital à 50 % de la plus-value. En transférant les actions directement, ça évite de payer l'impôt sur le gain en capital, donc ça fait faire une économie supplémentaire. Y a-t-il un montant minimal à respecter pour faire un don en action? Non, pas nécessairement. Toute personne qui a investi dans un portefeuille de titres peut transmettre des actions à un organisme de charité. Maintenant, on ne peut pas nier que ça s'adresse à des personnes ayant la capacité financière d'avoir un portefeuille de titres qui ne sont pas enregistrés. C'est sûr que c'est quand même limitant pour un certain nombre de personnes. C'était « Les dons en action gagnent en popularité », un texte de Julie Chaumont, paru le 13 novembre 2025 dans la presse.
Les Canadiens manquent des recommandations nationales d'activité physique. Un texte de Jonathan Sema, SEMAH, publié le 19 novembre 2025 dans La Liberté. Participe Action a publié le 19 novembre dernier son bulletin 2025 de l'activité physique chez les adultes. L'inactivité physique coûte également 3,9 milliards par an au système de santé canadien. Citation: vous rajoutez à ça un 15 milliards de pertes de productivité. Ça, c'est une nouvelle analyse qui a été faite récemment. Fin de citation. Précise le Dr Jean-Philippe Chaput, membre du comité de recherche du bulletin 2025. Citation: ça montre quand même des coûts assez astronomiques de ne pas bouger. Et bouger tous les jours, c'est l'une des meilleures pilules pour notre santé physique, santé mentale, et puis ça prévient des maladies chroniques à long terme, indique également le Dr Jean-Philippe Chaput. Inertie collective. D'autres chiffres font état de cette inertie collective. Seulement 27% des adultes ont déclaré avoir participé à une activité sportive au cours des 12 derniers mois. 35% des adultes ont déclaré pratiquer des activités de renforcement musculaire, sollicitant les principaux groupes musculaires au moins deux fois par semaine, tel que recommandé. Seulement 42% des adultes respectent la recommandation de limiter leur temps sédentaire à 8 heures ou moins par jour. Un faible niveau d'activité physique est associé à un risque accru de maladies chroniques, d'anxiété, de dépression et de décès prématurés, rappelle le bulletin 2025. Le Dr Jean-Philippe Chaput, qui est aussi professeur titulaire au département de pédiatrie de la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa, fait état d'un autre résultat qui l'interpelle, le nombre de pas par jour. Citation: ça a diminué aussi dans les dernières années, quand même beaucoup, lance-t-il. En effet, selon les données du bulletin 2025, seulement 32% des adultes de 18 à 79 ans vivant au Canada font au moins 7500 pas par jour, ce qui est considéré comme un mode de vie actif. En 2021, lors de la première mesure Participe-Action, 49% des adultes faisaient le nombre de pas recommandés. Citation: la pandémie a changé les choses. Il y a plus de gens en télétravail, on fait moins de pas, on prend moins de transports actifs, on ne se déplace pas au bureau, avance le Dr Jean-Philippe Chaput comme l'une des explications. L'importance de bouger. Comme l'explique le Dr Jean-Philippe Chaput, chaque mouvement compte. L'idée est de progresser pour tendre vers la barre des 7500 pas. Citation: une personne qui bouge 1000 pas par jour, qui se mène à bouger 2000, elle est encore beaucoup en dessous de cette barre-là, mais elle va avoir des bienfaits substantiels pour sa santé. Et les plus grands bienfaits sont au début. Quelqu'un qui en bouge zéro, qui se met à en bouger 1000, c'est exponentiel. Fin de citation. Le Dr Jean-Philippe Chaput, également chercheur au sein du groupe de recherche sur les saines habitudes de vie et l'obésité de l'Institut de recherche du Centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario. L'éducation est peut-être une solution à cet enjeu. Commencer jeune à prendre de bonnes habitudes peut permettre d'inverser la situation. Mais le Dr Jean-Philippe Chaput insiste, citation, « il n'y a pas de mauvais moment pour mieux faire. » Une personne qui n'a pas bougé pour sa vie complète, qui se met à bouger à 60 ans, il va avoir des bienfaits pour sa santé. Mais lorsqu'on commence tôt et qu'on a une base, on sait comment lancer, botter et autres, donc on a un contrôle moteur adéquat, et l'on a moins peur de faire du sport ou de s'impliquer dans des activités sportives. Fin de citation. Le bulletin 2025 souligne l'importance de faire de l'activité physique une priorité nationale. Selon Participe-Action, des investissements des différents ordres de gouvernement sont essentiels. Priorité nationale. Le rapport de l'organisme explique d'ailleurs que seulement 22% des municipalités de plus de 1000 habitants disposent d'une stratégie officielle pour le sport et l'activité physique. Citation: c'est aménager notre environnement pour que ça devienne plus facile à plusieurs égards. Je pense que les gens aiment une certaine flexibilité. Il n'y a pas une personne qui aime bouger de la même façon. Il y a des gens qui aiment ça avec des activités en groupe parce qu'il y a un aspect social à ça. D'autres aiment ça bouger seul chez eux. D'autres aiment marcher. D'autres aiment jardiner, danser. Il n'y a pas de meilleure activité. On a souvent vendu l'activité physique comme on doit aller au gym. On doit suer pour être en bonne santé, ce qui est complètement faux. Chaque mouvement compte, mais choisissez les activités que vous aimez. D'un point de vue municipal ou de gouvernement, il peut y avoir plusieurs options. Il y a des activités en ligne, les gens peuvent aller en groupe. Plus l'offre est grande, plus on va répondre à la demande aussi. Mais si on a accès à tout, possiblement qu'il y ait quelque chose qui va nous tenter. Fin de citation, fait remarquer le docteur Jean-Philippe Chaput. C'était « Les Canadiens manquent les recommandations nationales d'activité physique », un texte de Jonathan Sema, publié le 19 novembre 2025 dans « La Liberté ».
Une courte histoire du service d'employabilité de Mémo Québec. Un texte de Mélissa Lévy, conseillère en orientation, paru dans l'édition Hiver 2025 de la revue Paraquad. Le service d'employabilité de Moëlle Épinière et Motricité Québec a passé l'épreuve du temps grâce aux gens de cœur qui se sont succédés dans ses rangs et qui l'ont développé. Des gens sensibles aux besoins des personnes en situation de handicap en raison de problèmes de santé de nature physique et neurologique. Malgré une volonté ancienne de l'APQ, l'Association des paraplégiques du Québec, qui est devenue Mémo Québec en 2010, de se doter d'un officier de placement dès sa création en 1948, il faut attendre 1972 pour que l'organisme puisse engager un agent de placement grâce à un nouveau programme extension de la main-d'œuvre, du ministère de la main-d'œuvre, renommé par la suite Emploi et Immigration Canada, EIC, puis Développement des ressources humaines Canada, DRHC. C'est ainsi que le Centre spécialisé de ressources humaines, appelé Mode d'emploi, a vu le jour et a offert dès lors un service de conseil en emploi. Il allait permettre non seulement aux personnes blessées médulaires, mais un grand nombre de personnes ayant des limitations fonctionnelles physiques ou neurologiques, de retourner aux études ou de réintégrer le marché du travail. Dans les années 1980, le service s'est distingué en ce qu'il s'adressait à toute personne ayant une déficience physique, mais aussi aux employeurs, agissant comme un médiateur entre les chercheurs d'emploi handicapés et les entreprises et organismes qui embauchent. Il comptait alors 2 conseillers en placement. En 1997, le programme fédéral qui finançait le service depuis 1972 a été aboli. Les démarches se sont ensuite poursuivies auprès de l'Office des personnes handicapées du Québec et des organisations provinciales du domaine de l'emploi afin d'assurer le financement à long terme. Rappelons qu'en 1998, les structures et les services d'emploi au Québec ont subi d'importants changements avec le transfert des mesures actives d'emploi du fédéral vers le provincial et l'implantation du nouveau ministère de l'Emploi et de la Solidarité. En 2013, Mémo Québec est parvenu à négocier une entente triennale avec Emploi Québec pour assurer le financement de son service d'employabilité, ce qui a permis d'assurer une stabilité et, au fil des années, d'agrandir l'équipe. C'était une courte histoire du service d'employabilité de Mémo Québec, un texte de Mélissa Lévy, paru dans l'édition Hiver 2025 de la revue Paraquad.
Message aux proches aidants de la part d'une proche aidante. Un texte de Véronique Pagé, paru dans le numéro 166 au printemps 2025 du magazine Paraquad. Véronique Pagé a plus de 10 ans d'expérience en milieu communautaire, en intervention, en coordination d'équipes de travail et en gestion. Elle a occupé un poste de coordonnatrice clinique pour une ressource intermédiaire qui est partenaire du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, ainsi que le poste de directrice générale du Centre Viomax durant 8 ans, où elle travaille toujours. Éducatrice spécialisée de formation, elle a travaillé auprès de plusieurs clientèles ayant des limitations fonctionnelles. Elle a aussi animé des groupes de soutien destinés aux proches aidants de personnes atteintes de cancer et offert plusieurs conférences. C'est maintenant par le coaching qu'elle accompagne différentes clientèles dans l'atteinte de leurs objectifs de vie personnels et professionnels. Le sujet des proches aidants est particulièrement important pour moi. Il touche à une dimension très personnelle de ma vie, mais aussi à ma vie professionnelle. J'ai découvert ce qu'était la vraie définition d'être un proche aidant en accompagnant mes 2 parents en fin de vie, mais aussi, pour la toute première fois, au début des années 2000, alors que j'ai accompagné mon meilleur ami, Stéphane, qui venait de recevoir un diagnostic de cancer foudroyant. J'avais seulement 24 ans et mon ami, qui lui en avait 25, se retrouvait confronté à sa mort imminente. Je me souviens à quel point j'étais envahi par une profonde tristesse et une impuissance désarmante. J'ai accompagné mon ami avec toute la force que je possédais à l'intérieur de moi, pour que cette expérience soit faite de moments dans la légèreté et la simplicité, et aussi pour qu'elle soit teintée de moments lumineux. Après toutes ces années, je peux vous confirmer que mon rôle de proche aidant a déterminé ce que j'allais faire professionnellement. Après le décès de mon ami Stéphane, j'ai décidé officiellement de faire de la relation d'aide et d'aller en premier lieu faire de l'écoute active et du soutien aux proches aidants pour la Société canadienne du cancer. J'ai accompagné des proches grâce à la ligne « Cancer, j'écoute » et aussi animé des groupes de soutien. Ces groupes m'ont permis de saisir toute l'importance des proches, et ce, peu importe la situation qui est vécue, car la définition de proches aidants n'est pas seulement d'accompagner un proche en fin de vie, mais surtout et avant tout pour lui permettre de mieux vivre malgré les pertes, les défis et les enjeux. Accompagner l'autre au quotidien. Je me souviens quand j'ai accompagné ma mère dans toutes ses démarches médicales, les traitements, les décisions à prendre, les questions à se poser et tout le reste. J'ai fini par oublier que la vie continue. En effet, on doit continuer à payer les factures, s'occuper de ses enfants, voir ses amis, faire l'épicerie, etc. Ce rôle qu'on adopte par amour pour l'autre devient naturel et on ne se rend pas compte au fil du temps, une journée à la fois, que nous sommes devenus proches aidants. Un matin, en prenant mon café, je suis tombé par hasard sur un podcast qui parlait de l'importance des proches aidants dans notre société et à quel point ce rôle était oublié et peu valorisé. Une question importante était posée. À partir de quel moment devenons-nous un proche aidant? La réponse m'a tout d'un coup frappé comme un coup de 4x4 dans le front. Nous devenons proche aidant à partir du moment où notre horaire est déterminé en fonction des besoins de l'autre. Tout d'un coup, je venais de comprendre que je n'étais plus seulement dans le rôle de la fille de ma mère, mais j'étais devenue une aidante naturelle et malgré le fait que c'était normal pour moi de le faire, c'était aussi difficile et confrontant. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de mettre en place des stratégies pour prendre soin de moi, pour continuer à prendre soin d'elle. J'ai commencé à aller chercher de l'aide. J'ai accepté de prendre des pauses pour refaire mes énergies et charger ma batterie. J'ai mis à mon horaire des moments où je pouvais rire et faire des soupers entre amis. J'ai surtout accepté de ne pas me sentir coupable d'avoir besoin de plaisir et de détente. j'avais tout simplement besoin d'être accompagné. Ces actions que j'ai prises pour me préserver m'ont permis de passer des moments de qualité avec ma mère et de faire des choix plus conscients pour le temps que nous allions partager. Je réalise aujourd'hui combien ces expériences étaient des cadeaux de la vie qui m'ont permis de grandir à vitesse grand V. Quand les rôles s'inversent. Un enjeu que j'ai perçu à plusieurs reprises dans les groupes de soutien, c'est que les rôles changent à notre insu. Je pense qu'il est important d'être conscient que nous avons aussi besoin de rester le conjoint, la mère, le fils et non seulement la personne qui aide. C'est exactement pour cette raison qu'il est important de s'entourer et d'ouvrir un dialogue avec notre proche, car très souvent les proches et les aidés essaient de se préserver l'un et l'autre, sans échanger sur ce qu'ils vivent chacun de leur côté. Le conseil que je vous partagerai sans hésiter est de ne pas rester seul. Osez demander de l'aide pour parler et ne pas rester isolé. Bien que ce rôle soit exigeant, être proche aidant, c'est faire une différence dans la vie de l'autre dans les petites choses, et il faut aussi en profiter. Hommage aux proches. Pour terminer, j'aimerais vous dire à quel point j'ai une profonde admiration et un immense respect pour vous, les proches, qui, jour après jour, apportez votre soutien. Pour avoir accompagné plusieurs fois mes proches lors de leurs hospitalisations, j'ai pu constater toute l'aide que vous apportez sans rien demander. À quel point votre présence décharge le réseau de la santé? Votre présence a une valeur considérable, qui ne se calcule pas en chiffres, mais qui se ressent directement au cœur. Je vous remercie comme humaine et comme contribuable. Vous êtes indispensable pour la société et c'est pour toutes ces raisons que vous devez vous célébrer, car vous changez le monde un jour à la fois. C'était « Message aux proches aidants de la part d'une proche aidante », un texte de Véronique Pagé, paru dans le numéro 166 au printemps 2025 du magazine Paraquad.
Combattre les plantes envahissantes, un lac à la fois. Un texte de Julie Roy, paru le 1er octobre 2025 dans La Presse. Août 2024, c'est la consternation au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le lac Otis est bel et bien envahi par le myriophylle à épis. Cette plante envahissante menace la santé et l'équilibre du milieu aquatique. Qui contacter? Phyto, F-Y-T-O, la seule entreprise de la province qui se consacre totalement à cette lutte et qui allie stratégie et travail terrain. Le problème a été connu en 2024, mais c'est seulement en 2025 que nous avons pu mettre en place une stratégie de contrôle. C'est la première fois que cette plante est détectée dans cette région, mais c'est un problème qui se répand, affirme Vincent Gagné, président et directeur général de Phyto. À l'heure actuelle, près de 200 plans d'eau dans la province seraient touchés, un chiffre qui serait peut-être sous-estimé, selon le spécialiste. C'est une plante qui vient à la base de l'Eurasie. Elle a été importée et mise dans des aquariums comme décor, mais elle a été rejetée dans les lacs. L'enjeu est que la contamination est très facile. Elle se produit quand les plaisanciers se promènent d'un lac à l'autre sans laver à l'eau chaude leur embarcation, indique Vincent Gagné. Un projet de mémoire devenu entreprise. Phyto est venu au monde en 2021. C'est dans la foulée de sa maîtrise en aménagement du territoire et développement régional à l'Université Laval que Vincent Gagné a décidé de se concentrer sur la gestion des espèces exotiques envahissantes. Le myriophylle à épis envahit tout l'écosystème et entre en compétition avec les plantes indigènes. Je me suis vite rendu compte qu'on devait faire un plan de lutte, mais qu'il fallait ensuite entrer dans l'eau pour faire le travail. Le jeune entrepreneur a donc suivi son cours de plongée et s'est adjoint une équipe de plongeurs pour contrôler l'envahisseur. De trois, l'équipe s'agrandit à 24 personnes en saison. Elle compte dans ses rangs des plongeurs professionnels, mais également des spécialistes en environnement et des biologistes. Nous avons de plus en plus de mandats grâce aux bouches à oreilles, nous dit Vincent Gagné. Le chiffre d'affaires a quadruplé en 4 ans. Notre croissance moyenne annuelle est de 60 %. En 2026, on prévoit encore une hausse. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais cela prouve que la problématique est réelle et qu'on doit agir. Un long processus. Éliminer à 100 % le myriophylle à épi est impossible. Mais les stratégies de contrôle sont efficaces, comme l'installation d'une toile, l'arrachage et l'aspiration sous-marine. Cependant, ces travaux exigent des autorisations et doivent être réalisés selon des normes précises. C'est la raison pour laquelle les demandes que reçoit Phyto cette année ne pourront déboucher sur des travaux qu'en 2027. On doit faire un inventaire, bâtir une stratégie avec la description du milieu. Ensuite, acheminer le tout au ministère avant que nous ayons les autorisations. En moyenne, le processus dure 1 an. Des riverains s'unissent. Pour plusieurs, l'attente en vaut la peine, car cette plante envahissante cause de nombreux soucis aux riverains qui se retrouvent face à un lac aux allures de marécage. D'ailleurs, ce sont eux qui s'unissent pour payer la facture. Certains mandats peuvent coûter jusqu'à 200 000 $ par an, mais le ministère de l'Environnement n'a pas les ressources pour payer ça. L'enjeu, c'est que plus le problème est présent depuis longtemps, plus il est onéreux à traiter. Ce sont donc des associations de riverains, des citoyens et des municipalités qui s'unissent pour payer les coûts, souligne le spécialiste. C'était « Combattre les plantes envahissantes, un lac à la fois », un texte de Julie Roy, paru le 1er octobre 2025 dans La Presse.